Pour Paul Foissier, rencontré au domaine familial, l'avenir de l'appellation Sancerre sera dans la diversification, dans une gamme plus étendue de vins. Déjà, des puristes voient dans certaines nouvelles cuvées du Sancerre une déviance. Paul Foissier n'est pas d'accord et prêche pour que l'appellation Sancerre soit plutôt protégée que contrôlée. Je me suis rendu au domaine Foissier, attiré également par le fait que tous les vins de la maison sont biologiques et biodynamiques.
Paul Foissier. Je suis vigneron à Sancerre, au domaine Foissier, domaine familial de la famille Foissier. Je travaille actuellement avec mon cousin Benoît et tous les deux, nous sommes la 10e génération de la famille à être vigneron à Sancerre.
Vous avez un domaine quand même assez grand, là.
Oui. Du fait d'être la 10e génération, actuellement, nous avons 60 hectares de vignes. Principalement planté en Sauvignon pour le Sancerre blanc. Et on a 9 hectares de pinot noir pour le rouge et le rosé.
Il y a peu de rouge tout compte fait dans Sancerre.
Ça dépend des exploitations. Il y a des exploitations qui ont un petit peu plus de rouge que la moyenne, on va dire, de l'appellation. Et à l'heure actuelle, l'appellation, c'est 80% de blanc et 20% de pinot noir.
10e génération, vous me disiez. Donc, on se trouve dans un lieu ancestral.
Pas tout à fait où nous trouvons actuellement, parce que les caves qu'on a actuellement, on y est depuis 1972. Avant, mon père et mon oncle étaient dans le vieux Sancerre, au cœur du village, dans de très vieilles caves. Maintenant, c'est mon cousin qui habite là-haut. Mais c'est vrai qu'ils se trouvaient un petit peu à l'étroit, parce que c'était très pittoresque, mais ils avaient des caves dans différentes rues, voire dans différents quartiers, avec les pressoirs à un endroit, les cuves à un autre endroit. C'était un petit peu laborieux. Et 1972, ils ont fait leur première vinification dans les caves où nous nous trouvons actuellement.
Et là, vous avez tout regroupé ici, là.
Oui, on a tout regroupé, les bureaux, la cave, le magasin, tout. On est tout à un seul endroit, sur plusieurs niveaux, mais on a tout à un seul et même endroit.
Vous êtes sûrement l'un des plus gros vignobles de Sancerre.
Ah, ça, c'était peut-être le cas jusqu'au milieu des années 90, début des années 2000. On a énormément freiné les plantations parce qu'on ne voulait pas faire n'importe quoi non plus. 60 hectares, c'est déjà beaucoup. Non, il y a des domaines qui sont quand même beaucoup plus gros que nous à l'heure actuelle. Nous aussi, ce qui nous freine, c'est que l'ensemble du domaine est converti et certifié en agriculture biologique et en biodynamie. Donc 60 hectares, c'est déjà beaucoup. On fait beaucoup de travaux à la main et il faut aussi trouver le personnel pour travailler dans les vignes. Trouver le personnel, c'est peut-être pas le problème, mais trouver le personnel compétent et qui reste, c'est le plus difficile à l'heure actuelle.
Justement, vous êtes dans une période, en début de saison comme ça, où vous avez besoin de passablement de gens là, dans le vignoble.
Là, on a commencé un petit peu les ébourgeonnages. Là, on a une vingtaine de personnes en plus de nos salariés permanents. Mais c'est vrai que ça va pas très très vite parce que la météo nous aide pas beaucoup. Il fait encore très frais. Il ne fait pas super chaud. Dehors, il y a beaucoup de vent, les températures ne sont pas très hautes. Donc là, ça va encore s'accélérer, je pense, d'ici un mois, on va encore avoir des personnes en plus. Et puis après, l'apogée, c'est au moment des vendanges. Là, par contre, on aura beaucoup de gens pour les vendanges.
Revenons sur la biodynamie, la production biologique. L'ensemble de votre production est dans cette ligne?
En fait, quand on a commencé la conversion officielle en 2007, parce qu'on pratiquait depuis 2002-2003 avec mon cousin, et en 2007, on a lancé la conversion officielle. Donc, on est certifié depuis 2011. L'ensemble du domaine est converti et certifié. Maintenant, ça doit être 3 ans, mais nous, à l'époque, ça devait être 5 ans pour convertir l'ensemble de votre exploitation agricole en agriculture biologique et en biodynamie. Maintenant, c'est moins. Ça doit être 3 ans, je crois, maintenant. Enfin, donc, nous, de toute façon, la question se pose même pas parce qu'on a tout certifié. Oui, voilà. On a tout certifié d'un seul coup et d'un seul tenant. Donc là, maintenant, les 60 hectares sont certifiés en agriculture biologique et en biodynamie depuis 2011. Voilà.
Ça vous donne une position particulière sur les marchés, justement, d'avoir des produits qui sont biodynamiques, biologiques?
Par exemple, en France, ça nous permet de vendre des bouteilles dans des magasins spécialisés en alimentation bio, par exemple, les petites épiceries bio, enfin, ce genre de choses. Après, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de cavistes à l'heure actuelle en France qui ne vendent exclusivement que des vins en bio, biodynamie, des vins nature, qui ne vendent plus du tout de vins conventionnels. Et aussi à l'export, ça nous ouvre aussi certaines perspectives. Beaucoup de pays nordiques ont des monopoles qui font des appels d'offres que sur des vins bio. Donc depuis ce temps là, maintenant on est sur ces marchés là. Et puis aussi chez vous, on sent quand même au Canada de manière générale et peut-être encore plus au Québec, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent des vins bio, biodynamie, des vins peu sulfités. On sent quand même qu'il y a une recherche. Et nous, même si un jour les gens veulent plus, mais ça m'étonnerait, de toute façon on recommencera pas à faire des vins conventionnels.
Vous ne reviendriez pas en arrière?
Non, non, non. Moi, je suis revenu en 2001, on a commencé en 2002-2003 à faire ça. Vous voyez, donc ça fait déjà quelques années. Bien, on ne reviendra jamais en arrière. On ne peut plus raisonnablement continuer à faire un métier où on peut utiliser des produits polluants, des produits qui sont mauvais pour la santé, pour les animaux. Et on est au 21e siècle, hein. faut arrêter tout ça. Nos ancêtres le faisaient parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient peut-être pas la connaissance, ils n'avaient pas le choix des produits et tout. Au 21e siècle, faut arrêter. Je pense qu'il faut quand même penser aux générations qui vont arriver derrière.
Mais le changement, la conviction d'adopter la biodynamie, la production biologique, les méthodes biologiques, c'est venu comment?
Mais en fait, à la fin des années 90, début 2000, Benoît et moi, on était encore étudiants ou on venait juste de sortir de nos études, donc à faire différents boulots, différents stages et tout. On a rencontré de manière complètement opposée. Lui, de son côté, il a rencontré Pierre Moret en Bourgogne. Il a fait un stage chez lui. Donc Pierre Moret pratiquait la biodynamie, parce que maintenant je pense que Pierre est à la retraite, ça doit être que sa fille maintenant qui est au domaine. Et moi dans le Bordelais, j'ai rencontré Paul Barre, deux personnes très très pointues en biodynamie générale et puis même plus particulièrement biodynamie viticole. Et après, quand on a 20 ans, on commence à goûter des vins. Moi, j'étais à Bordeaux et puis je goûtais des vins qui étaient complètement techniques. Des vins, c'était le début des vins parkérisés, ce genre de choses. Je trouvais ça d'un ennui pas possible. Et après, j'ai commencé à goûter que des vins en bio, biodynamie. C'était le début aussi des vins nature. Et quand je suis revenu au domaine, Benoît a vu la même chose de son côté en Bourgogne. On s'est dit, faut qu'on fasse les vins qu'on a envie de boire. Voilà, et donc c'est parti comme ça, et on a eu la chose que nos pères nous ont laissé faire. Ils nous ont juste dit un truc, ils nous ont dit, écoutez, on est 25 à travailler et à vivre du domaine, faut que tout le monde ait à manger le midi dans son assiette. C'est la chose qu'ils nous ont dite.
Et c'est réussi?
Bah écoutez, ça va plutôt pas mal.
Et on a eu l'occasion de goûter l'iconoclaste. Voilà. Une chose surprenante tout d'abord, la bouteille est blanche.
Mais en fait, on est allé jusqu'au bout de notre connerie avec mon cousin. Traditionnellement, à Sancerre, la plupart du temps, et d'autant plus au domaine, les vins rouges sont élevés en fût pendant quelques temps. Nous, au domaine, ils sont toujours élevés à un an, dans des proportions de fût neuf plus ou moins. Ça dépend des domaines, des gens, des cuvées et tout. Et nous, en fait, on voulait faire un rouge facile. C'est-à-dire que la bouteille de rouge que vous avez dans votre cellier ou chez vous, et puis des copains qui passent à l'improviste pour boire un coup, regarder un match de football, un match de rugby, nous on est plus rugby avec mon cousin, et on voulait même faire un vin de pizza, quoi, un vin de saucisse, une bouteille de rouge que vous sortez facilement, pas non plus galvauder le terme de vin, quoi, je veux dire faire quelque chose de bon, mais qui soit, qu'on se dise pas, est-ce qu'il est pas trop tôt pour ouvrir cette bouteille, ou est-ce qu'il faudrait pas que ça soit la bouteille que je vous ouvrirai que le beau-père dimanche, voilà. Le rouge, qu'on n'hésite pas à prendre, à déboucher la bouteille, quand elle est finie, d'en déboucher une deuxième parce qu'on a encore soif. Et on voulait faire un rouge dans ce sens-là, sur le fruit, qui soit un rouge convivial, un rouge de copain. Et c'était un peu à l'antithèse des rouges qu'on faisait déjà à l'époque avec nos pères. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé iconoclaste. C'est pour ça qu'il est dans une bouteille blanche. C'est la première cuvée qu'on a commencé à cirer au lieu de mettre une capsule normale. Voilà, on est allé au bout de notre connerie et puis on continue.
C'est réussi parce qu'il est vraiment très bon.
Ben ça, merci, ça fait plaisir. 2018 était un millésime qui était... on aurait pu faire des rouges un peu compote, un peu pruneau, un peu trop mûr et tout. Et on a préféré vendanger plus tôt. C'était déjà mûr d'un point de vue phénolique pour nous. Et on n'a pas voulu aller non plus... c'était pas la course à l'échalote pour nous. On veut faire des vins qui soient digestes, qui ne soient pas non plus squelettiques. Mais on veut faire des vins digestes, mûrs, mais digestes. Donc en fait, on a pris la décision à un moment donné de vendanger peut-être plus tôt. Et ça nous fait quand même un rouge qui a de la structure, mais qui reste sur le fruit léger. Même un peu frais, je veux dire, cet été sur les pique-niques, ça marche quoi.
Ce que vous avez sur le marché, c'est déjà la cuvée 2018.
Oui, 2018 en France. Je ne sais pas si le 2018 est arrivé chez vous au Québec. Peut-être. Je pense que si. Je pense que si, ça doit être arrivé parce que c'est parti. Est-ce que c'est arrivé? Je ne sais pas, mais c'est parti.
L'Atlantique, c'est grand.
C'est très, très grand, oui. Et puis le temps après que ça soit, tous les papiers soient faits chez vous, ça peut être un peu long des fois. Mais non, mais je pense que 2018 doit être arrivé chez vous. Voilà. D'habitude, on l'élève à un an, sauf que en cuve, uniquement en cuve. À partir de l'année prochaine, il sera élevé en jarre, en terre cuite également. Mais 2017, on avait fait une petite récolte. Donc à un moment donné, on n'en avait plus. Donc on a mis le 2018 en bouteille. Voilà.
Vous exportez depuis longtemps au Canada?
Canada, de manière générale, au Canada, oui. Au Québec, principalement, ça doit faire quasiment 10 ans maintenant qu'on importe au Québec. J'ai rien de bêtise, mais je pense qu'on a plus d'une douzaine de cuvées maintenant au Québec entre l'importation privée et la SAQ.
Parce que vous avez en tout et partout une vingtaine de produits, là.
C'est ça. Parce qu'entre les lieux dits, les cuvées comme Iconoclaste, qui pourraient être les deux. Iconoclaste, c'est et une parcelle et une cuvée. Parce que c'est partout chez nous. Et c'est ça, on a à peu près une vingtaine de vins différents. On a 10 blancs de lieux dits. Après, on a 2 cuvées en blanc. On a une cuvée en vin orange. On a 4 rouges et un pétnat rosé et un rosé tranquille.
En terminant, M. Foissier, le vin dans la région de Sancerre, l'avenir, comment vous voyez ça?
Ben, l'avenir, je le vois, faut pas s'endormir, parce que Sancerre est une vieille appellation depuis 1936, donc on a été vraiment dans le premier wagon des appellations d'origine contrôlée. On peut être vintage, mais faut pas devenir ringard. Et je pense que si on bouge pas certaines lignes, on va devenir ringard et au bout d'un moment, on sera obsolète. Je pense que c'est une appellation qui marche très très bien, mais il ne faut pas oublier de continuer à faire de la qualité. Et je pense qu'il ne faut pas faire des produits marketing non plus, mais je pense qu'il faut quand même suivre un petit peu la tendance des consommateurs de manière générale. Je pense que les consommateurs n'ont plus envie de boire des vins trop sulfités, n'ont pas envie de boire des vins qui peuvent peut-être avoir des résidus de pesticides. Je pense que tout ça c'est fini ou ça va se finir dans peu de temps. Ça, je pense que ça peut aller très très vite. Et même au niveau de la qualité, je pense qu'il ne faut pas oublier que la ligne de mire pour le vin, c'est quand même la qualité.
Vous êtes dans un marché qui est mondial maintenant. La concurrence, elle vient de partout, là.
Mais à l'heure actuelle, la concurrence vient de partout, oui, mais le pour l'instant, je touche du bois. Sancerre, en fait, entre l'offre et la demande, on ne peut pas répondre à la demande. Donc, y a des gens qui voudraient plus de Sancerre, c'est compliqué et tout, mais c'est tant mieux pour l'appellation. Mais moi, je fais pas de bateau, je fais pas de voile, j'ai des copains qui en font beaucoup, des fois le vent change. Donc faut pas oublier, faut garder le cap, même si le vent change. faut quand même tenir et voilà, faut pas devenir ringard, faut avancer.
Donc si j'ai bien compris, en plus d'un vin comme l'Iconoclaste que vous avez mis en marché, il y en aura peut-être d'autres un peu surprenants aussi là.
Chez nous oui, parce qu'on fait, ce qui est paradoxal c'est que pour l'instant, comment dire, pour Iconoclaste, il est toujours labellisé Sancerre. De temps en temps, il se fait un peu tirer les oreilles à la dégustation parce que il est pas déviant, il est pas mauvais, mais des fois, il peut être déroutant pour les dégustateurs parce que peut-être moins habitué ou pas du tout habitué pour certains. C'est ça qui m'embête par rapport à l'appellation d'origine contrôlée. Faut évoluer parce que nous, maintenant, on a 4 cuvées en vin de France pour se soustraire justement des dégustations et des fois des critères un petit peu vieillots qui sont plus... Voilà, donc nous, c'est toutes nos cuvées qui sont sans soufre ajouté sont en vin de France. Comme ça, ça évite qu'elles soient dégustées par des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude et qui ne vont peut-être pas comprendre le vin. Voilà. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, les dégustateurs, mais je pense que c'est un problème de compréhension de la dégustation de ce vin-là, enfin de ce type de vin-là. Par exemple, aussi, il y a... Comment dire? À Sancerre, on a un cépage blanc, un cépage rouge. De temps en temps, il faut aussi... une petite étincelle, une petite flamme qu'il faut raviver ou continuer à entretenir dans notre métier. C'est pour ça qu'on a fait des essais qui se sont confirmés. Donc c'est pour ça que maintenant, on a un pétnat rosé depuis quelques années, qu'on fait, pas tous les ans, qu'on fait quand le millésime le permet. Voilà. On a deux cuvées qui sont vinifiées, élevées en jarre. Une en phase liquide, hein, comme si on élevait dans un fût ou dans une cuve, qui est en vin de France également. Et on fait depuis le millésime 2015... On fait aussi de la macération pendant plusieurs mois dans des jarres en terre cuite, donc vinification en vin orange comme en Géorgie, voilà, donc en vin de France aussi. Et un jour ou l'autre, Iconoclaste, je pense que ça lui prend quand même un peu au nez de finir en vin de France. C'est dommage parce que nous, on se bat pour avoir ce droit à la différence, parce que l'Iconoclaste, c'est du pinot noir planté sur de la terre en appellation Sancerre. Au niveau analyse, il est dans les clous au niveau analyse. C'est à la dégustation, des fois, est-ce qu'il a peut-être le bonnet qui dépasse un petit peu trop du rang ou je ne sais pas. Donc, de temps en temps, il se fait un peu tirer les oreilles.
Parce qu'en dégustation, souvent, on se cloisonne. C'est un Sancerre. Ah non, c'est pas un Sancerre, même s'il vient de Sancerre. Les gens sont habitués à... moi, je le dis ça, tout simplement comme ça, les vins de Sancerre sont en général assez doux. Les rouges sont assez légers. L'Iconoclaste, une petite coche au-dessus.
Oui, ben, c'est ça, c'est un petit peu le... Et puis, comme nous, on n'ajoute aucun, aucun intrant dans nos vins. Alors, sur la plupart des autres vins, on sulfite à un moment donné, mais on est sur des doses très minimes. Iconoclaste, même pas, il n'est même pas sulfité. Donc, c'est vraiment c'est un pur jus de son terroir, hein, c'est un pur jus de son millésime, ça dépend des millésimes et tout. Donc, il est comme il doit être, je veux dire, il grandit tout seul, on le laisse grandir tout seul, on l'accompagne juste, on fait juste le surveiller pour qu'il ne se brûle pas trop les doigts, mais c'est tout. Alors, après, c'est vrai qu'il peut être déroutant parce que on n'est pas habitué à goûter. Ces vins rouges là, parce que des fois, ce que je reproche des fois aux vins rouges de Sancerre, c'est qu'ils peuvent des fois être un peu trop serrés à cause du sulfitage. Les sulfitages un petit peu trop, ça les resserre un petit peu. Derrière, vous pouvez avoir un côté un peu asséchant sur certains élevages en fût. Nous aussi, on fait sur les trois autres cuvées, on fait des élevages en fût, mais on utilise beaucoup moins de fûts neufs qu'avant parce que ça nous ennuie aussi, ce genre de choses. Mais après, c'est notre goût personnel qui a transpiré sur le vin, quoi. Mais je pense que les gens aussi ont envie peut-être de boire des vins plus goulayant. Je ne peux pas dire, pas des vins dans le sens facile, mais pas le côté galvaudé de la facilité du vin. Un vin qui soit bon, qui soit expressif et tout, mais qui soit vraiment proche de son terroir et puis proche de ce qu'il doit être, quoi. Pas de maquillage, pas de... Enfin, je veux dire, il ne faut pas que les vins soient maquillés comme des camions volés, quoi. Je veux dire, ça transpire le terroir, ça transpire le millésime. Un peu d'humain dedans, parce qu'il en faut quand même pas mal. Et puis, je pense que c'est tout, quoi.
Donc, il faut que l'appellation s'en sert, tout en la protégeant, bien sûr. Il faut qu'elle évolue un peu aussi.
Ben, c'est marrant parce que vous avez exactement dit le mot qui me gêne un petit peu. L'appellation d'origine est contrôlée. C'est un vrai truc français, c'est appellation d'origine contrôlée, vous contrôle tout. Tandis que l'Europe parle d'AOP, d'appellation d'origine protégée. Voilà. Et je trouve que l'Europe a raison par rapport à ça, de protéger nos appellations. Donc protéger nos appellations, c'est de dire, bon voilà, à Sancerre, vous plantez du Sauvignon, du Pinot Noir, ça s'arrête là. Après, libre à vous de faire des vins plus ou moins comme ça, parce que ce millésime-là, peut-être que vous allez avoir de la volatile qui va monter, mais votre vin ne va pas être du vinaigre non plus, mais ça vient du millésime. Vous avez un millésime très chaud, vous avez récolté, c'était très très mûr, les volatiles sont peut-être montées et tout. Tant que ça sent pas le vinaigre, tant que c'est dans les clous et tout, bah c'est sûr qu'à la dégustation, ça peut être un peu déroutant, parce que ça va avoir des arômes un petit peu différents. Protégeons tout ça. Pas contrôler bêtement, je veux dire, faut pas faire du contrôle et puis de la sanction arbitraire, quoi. Je veux dire, faut pas oublier qu'on est quand même sur des critères qui datent, bon, c'est sûr, en 1936, ça a été fait d'une certaine manière, dans les années 50, ça a été repris en 2008-2009, puis tout ça, ça bouge. Je veux dire, 10 ans après, il y a encore des trucs qu'il faut, je pense, qu'ont évolué, la nature a évolué, donc on fait des vins différents. Je pense que faut pas rester assis sur la même chaise trop longtemps.
Au Québec, donc, à la Société des alcools, on retrouve plusieurs de vos vins.
Différentes cuvées qui tournent un petit peu suivant les années, mais principalement, vous avez notre parcelle Les Chassaignes, qui est sur argilo-calcaire, Les Groux, qui est sur des calcaires crayeux, et après, vous avez le Clos de Bannon, qui est sur des argiles à silex, Les Romains également, Iconoclaste, voilà, et notre cuvée Skin, cuvée de macération. On l'appelle Skin parce que c'est plus facile pour tout le monde par rapport au côté Skin Contact. Voilà, c'est facile.
Et votre agence au Canada, c'est...
Donc, c'est l'agence de Cyril Kerebel. Donc, c'est un expatrié breton qui est devenu canadien et québécois il y a quelques années. Et sa société s'appelle la QV. QV, les deux lettres. Voilà.
Bien, encore une fois, merci beaucoup. Puis, félicitations pour ce que vous faites et perpétuez la tradition.
Ben, écoutez, on va essayer. Et puis, merci de votre venue. Ça m'a fait bien plaisir. Et puis, je profite de votre passage pour dire bonjour à tous mes amis québécois et canadiens. Mais j'ai beaucoup d'amis québécois, donc je les embrasse très fortement.
Merci.
Merci à vous.
Ici Lionel Levac. Domaine Foissier, bel exemple d'innovation, d'ouverture, d'adaptation à de nouvelles et logiques exigences des consommateurs. Bien sûr, des vins plus traditionnels ou conventionnels auront toujours leur place, mais il ne faut pas pour autant rejeter des initiatives, parfois surprenantes, certes, mais toujours basées sur le terroir, la qualité et l'évolution des goûts et de la demande. Dans un prochain blog sur la région du Sancerre, je vous parlerai du petit restaurant du village de Ménétréol, le Fleur One. Au revoir.